à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, mardi 1er mai 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir en Centrafrique, au moins 20 morts après l'attaque d'une église à Bangui. Un double attentat suicide a fait des dizaines de morts à Moubi, dans le nord-est du Nigeria. Au Burundi, démarrage de la campagne officielle pour le référendum du 17 mai. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais d'abord, le journal. Bangui, capitale de la République centrafricaine, plongée de nouveau dans la spirale de violence. Au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés. C'est le bilan provisoire des violences qui ont suivi l'attaque ce matin de l'église catholique de Fatima par une bande armée du PK5. Sur place à Bangui, Freeman Sipila, correspondant pour VOA Afrique.
L'attaque a eu lieu aux environs de 10h du matin, alors que les membres de la fraternité Saint-Joseph célébraient leur saint patron. Des hommes armés ont pris d'assaut les locaux de l'église, tuant plusieurs fidèles, dont un prêtre, blessant plusieurs autres. Abibrad Walter Mazangé, chancelier de l'archidiocèse de Bangui.
Ce matin, lors de la fête de patron des travailleurs et surtout Saint-Joseph, et donc la fraternité Saint-Joseph organise souvent une fête, et ils ont choisi de célébrer Notre-Dame de Fatima. Et donc c'est là-bas que nous avons entendu des coups de feu, on a attaqué la paroisse Notre-Dame de Fatima.
Savez-vous pourquoi l'église est attaquée?
Non, pour le moment, je ne sais rien du tout.
L'intervention des forces de sécurité intérieure a permis de repousser les assaillants. Les affrontements à l'arme lourde ont provoqué la panique dans la ville, alors que le président de la République assistait encore au défilé des travailleurs à l'occasion du 1er mai. Dans un communiqué, Médecins sans frontières assure avoir pris en charge dans ces structures plus d'une cinquantaine de blessés par balle, dont 6 malheureusement ont succombé de leurs blessures. Bangui est paralysé, des barricades sont érigées dans les quartiers et sur certaines artères principales. La mosquée du 2e arrondissement réhabilitée récemment est de nouveau incendiée et la tension reprend de plus belle. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Un double attentat suicide a fait des dizaines de morts à Moubi, dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive dans une mosquée peu de temps après la prière de l'après-midi. Et un second kamikaze s'est fait exploser dans un marché à proximité au moment où les fidèles s'enfuyaient de la mosquée. La police compte au moins 24 morts, mais des sources hospitalières disent que le bilan pourrait s'élever à au moins 48 morts. L'attaque est imputée à Boko Haram. Un poste de police frontière de l'ouest du Burkina Faso a également été attaqué hier soir par des individus armés à Madouba, près du Mali. La police affirme que les personnels du poste ont opposé une riposte tenace aux assaillants qui ont pris la fuite en direction du Mali. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, dénonce la montée de la violence contre les civils dans la région de Ménaka, dans le nord-est, située près de la frontière nigérienne. Cette zone a été le théâtre de récentes attaques ayant fait au moins 47 morts. Entre le 26 et le 27 avril 2018, deux raids armés ont été rapportés contre les campements d'Aklaz et d'Awakassa dans la région de Ménaka. République démocratique du Congo, plusieurs militants du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, ont été arrêtés à Goma, leur fief dans l'est du pays. Les autorités affirment que leur rassemblement était interdit. Au Burundi, la campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 mai a été lancée ce mardi. Cette consultation populaire devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Les États-Unis dénoncent un processus non transparent, les précisions de John Lindon.
Au total, 26 partis politiques, la plupart proches du parti au pouvoir CNDD et FDD et la coalition d'indépendants Amizero et Abarundi ont été autorisés à faire campagne selon une liste publiée par la commission électorale. Officiellement, on ne peut battre campagne que pour le oui ou le non. Un décret présidentiel publié il y a une semaine prévoit en effet une peine de 1 à 3 ans de prison pour quiconque tentera de convaincre les électeurs de s'abstenir. Le vote n'est pourtant pas obligatoire au Burundi. L'opposition en exil, regroupée au sein de la Sénared, a appelé à boycotter le référendum qui, selon elle, va signaler l'arrêt de mort de l'accord de paix d'Arusha de 2000. Cet accord structure la vie politique au Burundi depuis sa signature et avait mis fin à la guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts entre 1993 et 2006. Dans un communiqué, le département d'État américain s'est dit préoccupé et a jugé le processus d'amendement de la Constitution à travers ce référendum pas transparent et contraire à l'accord d'Arusha et aux obligations juridiques internationales.
Au Sénégal, les enseignants ont mis fin à leur grève après un accord avec le gouvernement, notamment pour une augmentation de l'indemnité de logement de 60 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Cette augmentation se fera progressivement à compter d'octobre, le mois de la rentrée scolaire. Les négociations ont été débloquées vendredi après une rencontre entre le président Macky Sall et les syndicats d'enseignants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'Iran estime que les accusations lancées hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à propos de son programme nucléaire sont fausses. On fait le point avec Yacouba Ouédraogo.
Ces allégations sans intérêt et honteuses sont celles de dirigeants qui ne voient pas d'autre moyen pour assurer la survie de leur régime que de menacer les autres, a déclaré Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères. Il a ajouté que l'opinion publique est suffisamment éduquée pour ne pas croire de tels propos. Le premier ministre israélien a dit qu'il ne cherche pas la guerre avec l'Iran. Il a affirmé hier que son pays dispose de preuves concluantes sur l'existence d'un plan secret de l'Iran pour se doter de la bombe atomique. L'Agence internationale de l'énergie atomique a toutefois réitéré n'avoir aucune indication d'activité iranienne liée au nucléaire. Le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, a estimé que ces affirmations israéliennes sont une raison de plus pour conserver l'accord avec l'Iran. Le président Donald Trump doit annoncer d'ici le 12 mai s'il retire ou non les États-Unis de cet accord conclu en 2015 et qui prévoit la limitation du programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions.
À Al-Qasr, dans le nord-est de la Syrie, au moins 23 civils, dont 10 enfants, ont été tués ce mardi dans des raids contre ce village contrôlé par le groupe État islamique. Ce bilan est avancé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui n'a pas été en mesure de préciser si ces raids ont été menés par la coalition internationale dirigée par les États-Unis ou par les forces irakiennes. L'Union européenne appelle les États-Unis à exempter définitivement l'Europe des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier. Cela fait suite à la décision de Washington de prolonger d'un mois la mise en application de nouvelles taxes. Abdourahmane Dia.
Les Européens ont certes bien accueilli la nouvelle exemption provisoire des droits de douane sur l'acier et l'aluminium accordée à l'Union européenne, au Mexique et au Canada. Mais ils déplorent une décision qui, pour eux, ne fait que prolonger l'incertitude. La Maison-Blanche a annoncé hier soir, dans un communiqué de dernière minute, qu'elle consentait à prolonger jusqu'au 1er juin le sursis qui était censé s'achever aujourd'hui 1er mai. Washington souligne qu'elle reste focalisée sur la préservation de la sécurité nationale des États-Unis lors des prochaines discussions. Mais la Commission européenne estime que cette situation d'incertitude affecte déjà les décisions commerciales. L'UE devrait être totalement et définitivement exemptée de ces mesures, car elles ne peuvent être justifiées par des raisons de sécurité nationale, a ajouté l'exécutif européen, assurant que les Européens ne négocieront pas sous la menace. Le président Donald Trump avait promulgué le 8 mars une hausse des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.
La Corée du Sud, la Chine et le Japon vont tenir un sommet le 9 mai à Tokyo. La rencontre réunira le président sud-coréen Moon Jae-in ainsi que les premiers ministres japonais Shinzo Abe et chinois Li Keqiang. Elle fait suite à un sommet historique le 27 avril entre le président sud-coréen et le leader nord-coréen Kim Jong-un avant une rencontre très attendue entre M. Kim et le président américain. Donald Trump. La Corée du Nord n'a pas indiqué quelles concessions elle était prête à faire sur son programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Ici, aux États-Unis, Donald Trump a jugé scandaleux que les questions que souhaite lui poser le procureur spécial chargé de l'enquête sur une éventuelle collision entre son équipe de campagne et la Russie aient été divulguées par le New York Times. La teneur des questions transmises à la Maison-Blanche semble indiquer que l'équipe de Robert Mueller s'intéresse à une potentielle entrave à la justice de la part du président américain. Vous avez un crime inventé, bidon, la collusion qui n'a jamais existé et une enquête qui a commencé avec une fuite illégale d'informations confidentielles. Sympa, a critiqué le président américain dans un tweet matinal. Et pour finir, sachez que la première délégation du Conseil de sécurité à se rendre en Birmanie, l'ONU qui a qualifié la crise des Rohingyas de nettoyage ethnique, réclame une véritable enquête. Cette crise a vu fuir quelques 700 000 musulmans au Bangladesh depuis l'été 2017. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eric Marini-Rakiza.
11 chefs d'État africains se sont réunis dimanche à Brazzaville pour mobiliser des financements pour le fonds bleu du bassin du Congo. Le bassin est le deuxième poumon écologique de la planète. L'initiative veut protéger les 220 millions d'hectares du bassin pour permettre aux économies de la région liées à l'exploitation des forêts de passer à une économie fondée sur les ressources issues de la gestion des eaux et fleuves. Les projets vont porter sur l'amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d'irrigation et le développement de la pêche. L'Algérie va construire 41 nouvelles zones industrielles dans 34 départements du nord et du sud du pays. Alger a déjà débloqué 860 millions de dollars pour le démarrage des travaux. Près de 10 000 hectares de foncier industriel ont été aménagés et mis à la disposition des investisseurs. Le pays dispose actuellement de 72 zones industrielles. Les Européens prêts à riposter à des sanctions américaines sur l'acier. Ils veulent taxer de manière ciblée et proportionner des dizaines de produits emblématiques américains, surtout le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos. L'exemption temporaire de taxes que le président Donald Trump a accordée fin mars à l'Union européenne expire demain mardi. L'Union européenne réclame depuis des semaines l'exemption définitive, mais sans grand espoir de l'arracher. Washington réclame des concessions, notamment sur le traitement équitable des automobiles.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Demi-finale retour de la Ligue des Champions.
Eh oui, l'Europe du football a les yeux rivés sur Madrid. Coup d'envoi 18h45, temps universel. Real Madrid, Bayern Munich. La victoire à l'aller, 2-1 des Madrilènes et donc les Bavarois qui vont devoir marquer 2 buts pour sauver l'espoir. Zinedine Zidane qui s'attend à cravacher comme jamais pour atteindre sa 3e finale d'affilée. Rien n'est joué au stade Santiago Bernabéu.
Et demain, le Roma tentera l'impossible.
3 semaines après un incroyable exploit contre Barcelone, l'AS Rome doit de nouveau remonter 3 buts de retard demain contre Liverpool pour atteindre la finale de la Ligue des Champions. Et l'entraîneur Eusebio Di Francesco l'assure, les Romains ont envie de faire un nouveau miracle.
Mancini, tout proche du poste de sélectionneur.
Et oui, l'entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, Roberto Mancini, s'est dit prêt à devenir sélectionneur de l'Italie. Annonce de l'administrateur de la fédération. Le budget prévu pour le futur sélectionneur et son encadrement a été fixé à 5 millions d'euros par an. La Squadra Azzurra n'a plus de sélectionneur depuis le mois de novembre 2017 et le départ de Gianpietro Ventura après l'échec historique face à la Suède en barrage d'accession au Mondial.
Salah, roi d'Angleterre.
L'attaquant vedette de Liverpool, Mohamed Salah, auteur de 43 buts cette saison, a été élu joueur de l'année par l'association des journalistes couvrant le football anglais. L'Égyptien qui a devancé d'une courte tête le joueur de Manchester City, le Belge Kevin De Bruyne. Le mois dernier, Mohamed Salah avait déjà reçu le trophée de joueur de l'année de la part du syndicat anglais des joueurs professionnels.
Et enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Après un premier tour des playoffs facile, Philadelphie est tombée sur un os hier à Boston. Les Celtics ont nettement dominé les Sixers 117-101 lors du premier match de cette demi-finale de Conférence Est.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgan Guériec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Centrafrique, il y a eu au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés suite à l'attaque ce matin de l'église catholique de Fatima par une bande armée du PK5. Tout le monde pointe du doigt des éléments armés de ce quartier. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mektar al-Nimeri, alias Force, chef d'un groupe armé du PK5 à Bangui, qui nie toute implication dans ce regain de violence.
Monsieur le journaliste, moi je sais rien, je suis malade au lit, et environ 9h30, 10h, j'ai écouté les balles, ça sonne vers le quartier Fatima. J'ai demandé que les policiers et les gendarmes, ils ont venu quelqu'un avec son véhicule, ils pensent que c'est moi. Ils ont tiré sur le véhicule, ils ont blessé le monsieur. Dès que le monsieur a sauvé sa vie, il est venu au kilomètre 5, ses parents, ils ont revendiqué. Parce que leur frère est en danger, en coma. Il n'a pas même des armes pour aller tuer quelqu'un, ni grenades, ni effets militaires. Ça veut dire, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et maintenant, on est sur le terrain. On ne sait pas. On combat le MINUSCA ou on combat qui? Le FACA et les gendarmes. Le MINUSCA est devant et le FACA et le BALAKA, ils sont derrière. Ils tirent sur nous.
Vos forces ne sont pas mêlées à l'attaque de l'église Fatima.
Je ne connais rien sur l'église de Fatima. Moi, je ne suis pas contre les chrétiens. Ça fait 5 ans. Je suis à côté de l'église. Pourquoi je n'ai pas allé brûler l'église? Il y a des éléments qui allaient chercher son cigarette. Et ils pensent que c'est moi. Et la police et les gendarmes, ils ont serré sur lui. Et le monsieur même, il se trouve à l'hôpital. Et l'histoire de l'église, moi, je ne sais rien. Si quelqu'un qui a les preuves sur moi pour qu'il allait attaquer l'église, il n'a qu'à se présenter. Il y a les justices qui font son travail.
La MINUSCA dit que vous êtes des bandits qui extorquaient de l'argent aux commerçants du kilomètre 5.
Non, non, mais moi, je ne peux plus répondre à quelqu'un qui parle des renseignements verbales sur quelqu'un qui travaille dans un cadre des Nations Unies. Avant de réagir, il faut descendre sur le terrain. J'ai pris même qui et pour qui. Ni 100 francs, ni 50 francs pour quelqu'un. Et les gens qui ont fait le rapport contre moi au niveau de la MINUSCA, je vais le planter et je vais planter le gouvernement. Est-ce qu'une fois, je suis allé chez eux demander l'argent, ou une fois, je l'ai traqué, ou une fois, j'ai tenté le chef de l'État pour une cause de coup d'État? Moi, je travaille la paix et la cohésion sociale.
Et maintenant, votre groupe, il veut quoi? Il demande quoi, votre groupe armé dans le PK5?
Mais mon groupe armé a réclamé rien. Nous, on attend que les DDR, il y avait des enfants, il y avait des commerçants qui avaient les armes, mais il faut faire l'effort d'amener les gens là sur le DDR, monsieur le journaliste. Parce que le DDR n'est pas prêt. En même temps, le gouvernement n'est pas nous considéré. Parce que le mois d'avril, on a fait déposer les armes. On a appelé le chef de l'État, appelé le conseiller. Appelez-le tout le monde. Et monsieur, maintenant le président est allé par les urnes. Et le 26 avril, il faut venir récupérer les armes de 5 kilos pour les fatiguer. Merci au chef de l'État qui est devenu président.
Voilà, c'était Mektar al-Nimeri, alias Force, chef d'un groupe armé du PK5 à Bangui.
L'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis, c'est à 18h05, temps universel. Êtes-vous satisfait de votre travail? Comment améliorer votre activité et la rendre plus agréable? Aimeriez-vous pratiquer un autre métier ou recherchez-vous un emploi? En ce 1er mai 2018, parlez-nous de votre gagne-pain, votre profession ou votre emploi rêvé. Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Au Gabon, la Cour constitutionnelle a dissous l'Assemblée nationale lundi, le Sénat assurant la continuité du service législatif. La présidente de la Cour a également demandé la démission du gouvernement qui a reporté plusieurs fois l'organisation des élections des députés en 2016, 2017, puis fin avril. Suite à ces événements, Raissa Girondin a recueilli le point de vue de Raymond Dong Sima, ancien Premier ministre gabonais.
La législature actuelle arrivait à échéance en décembre 2016. Mais comme vous connaissez le contexte de 2016 qui faisait suite à l'élection présidentielle chahutée, l'élection ne s'est pas tenue et la Cour constitutionnelle avait pris une décision qui prorogeait le mandat des députés jusqu'à la mi-2017. Et la Cour à nouveau a été sollicitée et elle avait pris une décision qui prorogeait le mandat de l'Assemblée nationale jusqu'au 28 avril 2018. Puisqu'on avait déjà utilisé l'argument de la force, du cas de force majeure, qu'il ne serait pas question de proroger une troisième fois. Par conséquent, il n'y avait plus d'autre solution que de se conformer aux nouvelles dispositions constitutionnelles qui prévoient que, effectivement, à ce moment-là, l'Assemblée soit dissoute et que le gouvernement soit invité à déposer sa démission.
Vous parlez donc d'un retour à la normale?
Oui, c'est normal qu'on ait dissous, qu'on ait trouvé une porte de sortie à cette situation qui devenait tout à fait anormale. Et qu'il faut effectivement aller vers une élection. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises que même si l'élection ne se passait pas dans les conditions tout à fait satisfaisantes de mon point de vue, parce qu'il y a des réformes à faire sur le dispositif électoral, mais il vaut mieux qu'on aille à une élection pour qu'on ait en face de nous des représentants du peuple qui aient un mandat en bonne et due forme.
Mais justement, quelles sont les perspectives d'avenir? À quoi peut-on s'attendre pour ces prochaines élections et puis quand seront-elles organisées?
Le problème, c'est de savoir si les élections qui vont venir auront plus de sincérité que les anciennes élections. Est-ce que le cadre électoral, est-ce que les lois électorales, est-ce que les électeurs seront traités sur un pied d'égalité?
Est-ce que l'organe en charge des élections aura ce souci d'équité?
On sait déjà que la réforme constitutionnelle qui a eu lieu a conduit à la mise en place d'une augmentation du nombre de députés qui ne répond pas à une distribution équitable de la démographie. Personne ne peut se prononcer déjà à l'avance. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de contestations en 2016 et ce qu'il faut espérer, c'est que les élections qui vont arriver donnent lieu à moins de contestations et qu'elles se passent dans des conditions de plus grande transparence.
Raymond Dong Sima, ancien Premier ministre, joint à Libreville.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Congo-Brazzaville, les opposants, mais surtout de simples citoyens, publient des informations sur les réseaux sociaux pour dénoncer la corruption au sein des autorités. Le problème est que certaines de ces informations sur la vie des dirigeants sont fausses. De Brazzaville, la correspondance de Nguyen Goussou.
Il ne se passe pas un jour sans que les Congolais ne découvrent un grand déballage sur la vie d'un dignitaire du pouvoir ou de l'opposition et leur famille. Affaires de corruption, le compte offshore ou les disputes dans les réunions officielles, les scènes de ménage dans les cours des autorités, tout est rapporté. Aucun dirigeant n'est à l'abri de ce qui devait de plus en plus être plus au sérieux. À l'UPADES, par exemple, la principale formation de l'opposition, les cadres pour réclamer la tenue du Conseil national sont en train de passer par les réseaux sociaux. Destin et loi, responsable uni pour le Congo, le parti de l'opposant Paulin Makaya, trouve plutôt qu'il fallait inventer les réseaux sociaux s'ils n'existaient pas.
Si les gens aujourd'hui parlent de ces jeux parce que les gens sont fatigués, non, il faut laisser les réseaux sociaux s'exprimer. Et c'est ce que se dit dans les réseaux sociaux, c'est faux. C'est la réalité. Dites-moi, quel est l'instrument aujourd'hui que le peuple, que les citoyens, même déjà l'opposition, même marché, on a vous interdit. Alors, les gens sont obligés de passer par ces mécanismes de communication pour leur permettre de s'exprimer. Les gens, on en a marre.
Pour Lauriane Pouki, une usagère des réseaux sociaux, mais aussi coordinatrice d'une plateforme de site Internet, il y a trop d'abus sur Internet.
Oui, c'est juste une volonté de nuire. Il y a certaines informations. Moi, je me dis, il y a certaines personnes ou les gestionnaires de ces pages-là, des fois, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'informations. Ils se disent, bon, on doit créer un buzz. Et ils se mettent à fouiller des choses, à transformer des vérités ont des choses fausses pour attirer plus de gens parce que de nos jours, les gens sont plus intéressés à des futilités qu'à une vraie information.
Idriss Bosoto est un enseignant de nouvelles technologies à l'université Marie Ngouabi. Il a retenu une publication émouvante sur les réseaux sociaux.
On va parler également de ce fichier audio qui a circulé via le réseau social WhatsApp relatif à l'intervention du soi-disant sergent maçon ou je ne sais quoi, qui a, on va dire, entraîner une véritable psychose dans Brazzaville pendant près d'un mois. Tous les Congolais étaient, on va dire, affectés directement et indirectement. information qui a eu un impact social, mais qui a eu également un impact économique et surtout sécuritaire.
Mais qu'est-ce qui peut bien justifier un tel accaparement presque agressif des Congolais sur les réseaux sociaux? Alphonse Ndongo, un journaliste sur les réseaux sociaux, tente une explication.
Lorsque ceux qui sont censés donner la bonne information ne la donnent pas à temps ou gesticulent pour la donner, évidemment, ça laisse libre cours à tout genre de rumeurs, de mauvaises informations et donc, et partant, de fake news.
Depuis un moment, la plupart des membres du gouvernement se dotent des comptes Facebook ou Twitter pour essayer de répondre à toutes ces attaques. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, le 1er mai, fête internationale du travail, ne sera pas célébré avec beaucoup d'enthousiasme par plusieurs agents, des sociétés de sécurité privée. Ces derniers déplorent de plus en plus ce qu'ils appellent les mauvaises conditions de vie et de travail. Syndicats et sociétés civiles au Cameroun s'en inquiètent aussi. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les vigiles, comme on les appelle communément au Cameroun, assurent la sécurité des entreprises publiques, privées, mais aussi de certains domiciles. En tenue de travail ou pas, ils filtrent les entrées et sorties de jour comme de nuit, mais vivent dans des conditions de travail précaires. Ousmane et Abdourahman sont employés de deux sociétés de sécurité privées à Yaoundé.
Ils ne nous paient pas bien, c'est ça le problème.
Et on vous paye combien?
35 000. Si quand tu as fait un an dans les sociétés, on va te donner les primes. Ils sont parlés comme ça, ils ne donnent pas aux gens.
Quand on vous dit qu'on vous paye telle somme, après tu te retrouves avec les moitiés, ben on diminue un peu dans ton salaire.
Ces mauvaises conditions de travail des agents de sécurité privée sont les mêmes sur l'ensemble du territoire national. La société civile camerounaise qui s'est penchée sur ce dossier évoque de graves violations des droits de l'homme de ces travailleurs. Dora Sende et Boubakari Hassana, membre du collectif camerounais des organisations des droits de l'homme et de la démocratie dans les régions du littoral et de l'extrême nord.
Dans le littoral, il y en a qui font des licenciements abusifs. Non seulement tu lui prouves d'un droit qui est de travailler, mais tu lui prouves aussi du droit de recevoir la contrepartie par rapport à un contrat que vous vous êtes donné.
Il y a les employeurs qui ne veulent pas affilier leur personnel. Il y a les non-respect des textes et les règlements.
Seules 9 sociétés de sécurité privées détiennent l'agrément d'exercice d'activité au Cameroun. Difficile dans ce contexte pour les responsables syndicats de défendre les droits des vigiles camerounais. Célestin Mbama, secrétaire à l'organisation de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun.
Que les employeurs de ce côté, dès qu'ils sentent qu'un garçon est syndiqué, ils le mettent à la porte. Mais à la CSTC, nous étions à l'origine de l'élaboration de leur convention collective, malgré qu'elle connaît des petits couacs toujours du fait des employeurs au niveau du ministère du Travail.
La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, organe créé par le gouvernement, a été saisie par le collectif camerounais des organisations des droits de l'homme et de la démocratie sur la situation des employés des entreprises privées de sécurité. Pierre-Paul Moubitan, président du dit collectif.
Nous entrons dans ce domaine aussi pour aller sensibiliser, former, suggérer de manière à ce que tous les acteurs puissent travailler en synergie pour qu'il y ait véritablement une bonne gouvernance dans ce secteur.
En attendant, la plupart des vigiles camerounais vont vivre un 1er mai plein de soucis. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique, notre sujet de cette semaine, la différence de salaire homme-femme, d'où provient-elle? Pourquoi certaines femmes gagnent-elles moins que les hommes? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731. C'est au 001 703 350 3731. Contactez-nous aussi sur notre page Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous en live, en direct pour participer. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Joselle Morissin, la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.